Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Voir l'Afrique avec les yeux du futur. Donc je suis Sébastien Périmoni, rédacteur en chef du site www.afriquedufutur.com. Alors cette semaine, nous n'allons pas parler de grands barrages, de trains, de ponts, d'infrastructures, mais nous allons faire une parenthèse poétique. Et oui, car la poésie fait partie de l'histoire de l'Afrique et fait partie aussi du combat d'émancipation du continent, comme nous allons le voir aujourd'hui. Et je commencerai par citer Sékou Touré, qui disait « Il ne suffit pas d'écrire un chant révolutionnaire pour participer à la révolution africaine. Il faut faire la révolution avec le peuple. Avec le peuple et les chants viendront seuls et d'eux-mêmes. » Alors pourquoi cette émission poétique ? Tout simplement parce que j'ai eu la chance d'aller en Angola faire une conférence en 2019 et j'ai eu l'honneur d'être reçu donc par Maria Eugenia Neto, qui est la présidente de la fondation Agostinho Neto et qui était la veuve donc du premier président angolais, et par sa fille Irène Alexandra Neto. Donc ils m'ont reçu à la fondation et donc qui a eu la gentillesse de m'offrir la collection des œuvres complètes de la poésie d'Agostinho Neto, qui est très peu connue. On connaît mieux son combat politique, mais beaucoup moins son combat poétique. Et c'est intéressant, puisqu'il a mené tout un combat, on pourrait dire philosophico-poétique, contre Léopold Sédar Senghor, qui est connu pour être également un des grands poètes de la lutte des indépendances. Et donc, j'ai pu lire toutes ses œuvres poétiques, et en particulier une thèse d'un philosophe en fait nigérian, hein, qui s'appelle Ebenezer Adedeji Omotesso, et donc qui lui a fait une étude comparative en fait de l'idéologie et de l'engagement chez Agostinho Neto et Léopold Sédar Senghor. Donc il a fait une étude comparative, d'ailleurs qui sera bientôt traduite en français et qui sera donc disponible. Et cette étude, elle est passionnante parce que non seulement elle permet de découvrir le côté intime de Neto par ce qu'il a de plus profond, c'est-à-dire sa poésie, ses écrits politiques, mais également de prendre toute la mesure en fait des différentes composantes de la littérature africaine pour la libération et l'émancipation des peuples africains contre le colonialisme jusqu'en 1960 et aujourd'hui contre le néocolonialisme. Donc la thèse d'Omotesso, elle a pour but de montrer que Neto, d'un côté, était vraiment le libérateur des opprimés, alors que Senghor, lui, n'était que, je cite, hein, l'apôtre d'un suicide politique. Donc c'était des échanges assez tendus. Alors Agostinho Neto, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'était le libérateur de l'Angola, donc il est le père de l'indépendance de l'Angola. Il a été d'ailleurs le premier président du pays après la lutte d'indépendance, qui n'a abouti que très tard, puisque c'était le dernier pays décolonisé, puisque c'était les colonies portugaises. Et donc, lui était médecin de formation, antifasciste, hein, de la première heure. Il a combattu, il a été d'ailleurs nombreuses fois emprisonné par la dictature d'Antonio de Oliveira Salazar. La deuxième fois, il a quand même été emprisonné pendant 2 ans, entre 1955 et 1957. Et suite à une mobilisation internationale, d'ailleurs de grands penseurs français, il y avait Sartre, il y avait Louis Aragon et d'autres, il a pu être libéré. Et donc à partir de 1951, Neto va co-créer en fait le Centre des études africaines à Lisbonne avec Amilcar Cabral, fondateur du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC. Qui a également été, suite aux indépendances président, et ses amis angolais, Mario Pinto de Andrade, donc également poète et homme politique angolais, le Santoméen Francisco José de Vasquez Tanrero, donc qui était lui universitaire également et poète, né à Sao Tomé en 1921. Donc tous ces philosophes, ces poètes étaient totalement engagés dans cette lutte d'indépendance, et bien sûr Neto est celui qui a créé, on le sait, donc le mouvement pour la libération donc, de l'Angola, le MPLA, qui a pris le pouvoir et qui l'a gardé un certain nombre d'années. Donc voilà, on connaît moins le côté poétique. Donc Agostinho Neto était un poète, et justement ses œuvres ont intégralement été publiées en français. Je ne saurais trop vous les conseiller, vous les trouvez sur Internet ou sur le site de la Fondation Agostinho Neto. Il a écrit donc 3 ouvrages, donc un qui s'appelle « Espérance sacrée », un qui s'appelle « L'impossible renoncement » et le dernier « L'aube ». Alors le premier a été écrit en 1949, Les poèmes de l'Espérance sacrée et de l'Aube ont été écrits entre 1945 et 1962, et le dernier a été écrit en 1972. Alors, commençons par un petit extrait d'un poème de Netto, Adieu au moment du départ. Ô ma mère, ô toutes les mères noires dont les enfants sont partis, tu m'as appris l'attente, comme tu as attendu dans les heures difficiles, mais la vie a tué en moi cette espérance mystique. Maintenant, je n'attends plus, je suis celui par qui vient l'espérance. Donc, en dehors du monde académique, où souvent on considère l'histoire ou la science, la littérature, comme les actions des hommes, mais d'un point de vue de fait objectif, hein, par la raison pure en fait, hein, un poète allemand, d'ailleurs Friedrich Schiller, lui nous a enseigné que le chemin de la raison devait toujours passer par le cœur. Et donc il est impossible de comprendre et de comparer les poèmes de Netto et de Senghor en dehors de leur propre idéologie et leurs convictions politiques. Alors Netto, lui, était marxiste, considérait que l'entreprise coloniale était un désastre complet qui devait être renversé par tous les moyens possibles, y compris les moyens violents. Alors que Senghor, lui, le négritudiste, hein, qui a créé le mouvement de la négritude, était plus préoccupé par la revalorisation des valeurs culturelles africaines, qu'il accusait d'ailleurs l'Europe d'avoir détruite. Donc le marxisme, hein, c'était une méthode scientifique, on disait à l'époque, hein, qui avait pour but de transformer l'ensemble de la société humaine, qui attribuait aux masses, et plus particulièrement au prolétariat, comme on disait, un rôle important dans la transformation d'une société capitaliste vers une société socialiste à travers justement le combat armé. Et le rôle de l'artiste, et c'est ça qu'avait compris Netto, pendant cette lutte de classe, était de transformer la société et d'engager son art pour la cause du prolétariat. Et on attend également de lui qu'il prenne une part active à la lutte, l'artiste, qu'il ne soit pas un artiste de salon, comme on a beaucoup chez nous. Donc, alors que la négritude, d'un autre côté, c'était une réaction directe, hein, surtout les Africains qui parlaient français et les Antillais, contre la domination sur les Africains et les Noirs du monde entier. Donc c'est apparu vers les années 30, 1932 à Paris, entre les actions combinées, les activités littéraires de Senghor, Césaire et Léon Gontran Damas, pour citer les plus célèbres. Et c'est à ce moment-là où ils ont créé la revue L'étudiant noir en 1934, comme leur principal organe de publication. Alors on peut déjà identifier un premier paradoxe. Senghor, qui prônait la civilisation de l'universel, base sa théorie sur le concept restreint de négritude, à savoir selon lui la somme de toutes les valeurs de la civilisation africaine. Alors que Netto, lui, étant marxiste, dépasse en fait sa simple lutte des blancs contre les noirs pour une lutte plus globale, c'est-à-dire celle des opprimés contre le capitalisme. Mais comme le prétise Homo Teso dans sa thèse, la poésie négritudiste avait aussi des courants un petit peu plus révolutionnaires que le courant senghorien. Alors on appelait ça la négritude révolutionnaire ou la négritude agressive, alors que Senghor, lui, se qualifiait dans la négritude sereine, la négritude réconciliatrice, justement parce qu'il avait cette volonté de réconciliation et de défendre ce qu'il appelait la civilisation de l'universel. Et donc, autre fait caractéristique de ces deux approches, c'est que Netto, comme on l'a dit, il a été emprisonné à plusieurs reprises. Il a mené un combat, il a été en prison 3 mois en 51, 18 mois entre 55 et 57, en 1960, il a été envoyé au Cap-Vert sous surveillance, et enfin en 61, donc il a été vraiment sur le front. Alors que pendant ce temps-là, Senghor, bon, lui qui a été aussi le premier président du Sénégal après l'indépendance en septembre 1960, officier dans l'Empire français. Il était député dès 1945 dans le gouvernement provisoire jusqu'en 1946, puis sous la 4e République de 1946 à 1958 sans discontinuité, il a été parlementaire, et enfin sous la 5e République de 1958 à 1959, avant de devenir évidemment le premier président du Sénégal. Donc les deux poètes, bon, sont d'accord sur un point, c'est que voilà, l'Occident a fait des horreurs indescriptibles pendant la traite négrière et l'esclavage. Donc, dans un poème de Netto, d'ailleurs, qui s'appelle « Adieu au moment du départ », Netto décrit cette angoisse du travail forcé. Je vous cite le poème. « C'est nous aussi, les travailleurs sous contrat, brûlant nos vies dans les plantations de café, les nègres ignorants qui doivent respecter l'homme blanc et craindre le riche. C'est nous, tes enfants, ceux des quartiers noirs, là-bas où n'arrive pas l'électricité, les hommes ivres morts, livrés au rythme d'un tam-tam de mort, tes enfants affamés, assoiffé, honteux de te donner le nom de mère, craignant de traverser la rue. » Donc voilà, il a écrit d'ailleurs un autre poème, Netto, qui est très très beau, qui s'appelle « Départ pour le travail forcé ». Et Senghor, lui, bon, si on cite un poème de Senghor, Prière de paix, en fait, qui a été publié en 1945, hein, dénonce aussi évidemment l'esclavage des Africains par les Européens. Je vous cite donc Senghor dans le texte, Prière de paix. Car il faut bien que tu oublies ceux qui ont exporté 10 millions de mes fils dans les maladreries de leurs navires, qui en ont supprimé 200 millions. Et ils m'ont fait une vieillesse solitaire parmi la forêt de mes nuits et la savane de mes jours. Seigneur, la glace de mes yeux s'embue. Et voilà que le serpent de la haine lève la tête dans mon cœur, ce serpent que j'avais cru mort. Voilà, ça c'était pour Senghor. Autre point d'accord que soulève Omotezeu dans sa thèse, c'est que les deux poètes dénoncent aussi les valeurs de la civilisation occidentale. L'Europe veut imposer à ses sujets coloniaux que la civilisation européenne s'équivaut au capitalisme, à l'automatisation, à dégrader et déshumaniser l'homme. Et ils sont d'accord avec Aimé Césaire qui disait que civilisation égale chosification. Et ça, c'est explicite dans les poèmes de Netto, et en particulier dans le poème Civilisação Occidental, qui veut dire civilisation occidentale, où il condamne ce capitalisme. Je cite à nouveau le poème de Netto, Civilisation occidentale. Des plaques de tôle clouées sur des poteaux, plantées en terre, voilà la maison. Des haillons complètent le paysan intime. Après les 12 heures de travail d'esclaves, casser les pierres, charrier des pierres, la vieillesse arrive vite. Une natte dans les nuits sombres suffit pour qu'il meure reconnaissant et de faim. Voilà, donc ça c'était Netto. Senghor, lui, comme on l'a dit, est plus dans la réconciliation. Donc je le cite encore dans Prière de paix. Donc là c'est Senghor. Seigneur, pardonne à ceux qui ont fait des Asquias des maquisards, de mes princes des adjudants, de mes domestiques des boys et de mes paysans des salariés, de mon peuple un peuple de prolétaires. Car il faut bien que tu pardonnes à ceux qui ont donné la chasse à mes enfants comme à des éléphants sauvages. Donc on voit bien encore une fois, on peut souligner la négritude réconciliatrice de Senghor, à qui tu as d'ailleurs été reproché énormément, qui demande le pardon et la réconciliation plutôt que la lutte pour l'émancipation comme le prône Netto. Donc les deux poètes partagent aussi le point de vue que le colonialisme en fait est responsable de la désintégration de la culture, d'où l'importance de la poésie, puisque on sait qu'il y a une politique d'assimilation qui est mise en place, où on sélectionne parmi la population des chefs traditionnels qu'on forme pour devenir qu'on forme culturellement, intellectuellement, socialement, à faire des bons citoyens français ou portugais pour gérer les colonies. Et donc ces gens-là se sont déracinés donc de leur peuple et donc après sont justement assimilés et donc font la politique de l'État colonial. Et ça, c'est exprimé de manière magnifique par Netto dans un poème qui s'appelle « Musunda Amigo », qui veut dire « Mon ami Musunda », auquel il adresse en fait de manière intelligible à son ami parce que lui n'a pas eu accès à la culture dite occidentale. Je cite Netto « Et j'écris des vers que tu ne saisis pas, comprends-tu mon angoisse ?» Donc voilà, ça c'est dans « Mon ami Musunda » de Netto. Donc le langage utilisé par les deux poètes aussi, ça c'est très intéressant, l'analyse de la langue qui est utilisée. Donc on voit bien leur niveau d'engagement pour la cause des opprimés, parce que Netto, il utilise un langage simple, presque prosaïque, qui montre son soutien inébranlable pour les colonisés, qu'il cherche à mobiliser. On ne peut pas en dire autant pour Senghor, en fait. Senghor utilise un langage pédant, académique, qui n'est pas compris facilement, évidemment, du tout, par sa population. Et il cherche plutôt à dénoncer, à convaincre, en fait, les colonisateurs qu'à éduquer les colonisés. C'est également un des reproches qui lui a été fait. Mais, évidemment, tous deux attaquent, évidemment, l'hypocrisie des Européens, qui parlent à longueur de journée de liberté, de fraternité et d'égalité, sur leurs propres terres évidemment, mais qui ne les imposent pas, sur les terres africaines. Hein. Senghor d'ailleurs, dans Prière de paix, dit « Oui Seigneur, pardonne à la France qui haït les occupants et m'impose l'occupation si gravement, qui ouvre des voies triomphales aux héros et traite ses Sénégalais en mercenaires, faisant d'eux les dogues noirs de l'Empire. » Voilà. Donc pour Netto, c'est clair, lui... Le colonialisme, c'est la misère et l'oppression. Ça n'a rien à voir avec la démocratie, l'égalité ou la fraternité. D'ailleurs, il a écrit un poème qui s'appelle « A Reconquista », la reconquête, à la reconquête, dans lequel il dit, je cite Netto, « Afrique, des scènes occidentales, viens avec moi. Découvre le monde réel où des millions d'êtres fraternisent dans la misère, derrière les façades de la démocratie, du christianisme, de l'égalité. » Bon, voilà qui est qui est bien envoyé. Donc en fait, dans le discours poétique de Netto, on voit bien que le marxiste joue pleinement son rôle. C'est vraiment un programme de libération politique sous une forme poétique. Parce que Netto, oui, voit dans la lutte des peuples colonisés, la lutte des classes, hein, qui dresse les oppresseurs contre les opprimés, le prolétariat contre la bourgeoisie, les colonisés contre les colonisateurs. Et il commence par dénoncer la colonisation des Angolais, bien sûr, en particulier, puis des Africains, mais ensuite, donc, de tous les opprimés, comme on l'a dit plus tôt. Donc ça, c'est intéressant de voir que c'est un combat plus universel chez Netto que chez Senghor. Donc, comme le disait donc, le poète angolais, donc, qui défendait son pays, il a écrit un poème qui s'appelle « Sodasao », qui veut dire « le salut hein, », écrit en 1950, où il déclare justement, on va l'écouter, sa solidarité avec tous les peuples, avec tous les Noirs opprimés. Je vous cite ce magnifique poème, donc « Sodasao, le salut ». C'est toi, nègre sans nom, mon frère de même sang que je salue. Que mon message soit le lien qui m'unisse à ta souffrance, indissolublement, et qu'il t'attache à mon idéal. Maintenant, c'est l'heure de marcher ensemble, courageusement vers le monde de tous les hommes. Reçois mon message comme un salut fraternel. Ô nègre sans nom des rues et des cases de la brousse, sang de mon sang, valeurs humaines dans l'amalgame de la vie. Mon frère, je te salue. » Donc voilà, ça c'est le poème, très beau poème de Senghor, en soutien à tous les Noirs opprimés et qui luttent. Donc Netto d'ailleurs lui-même avait dit que l'écrivain, je le cite, doit se situer lui-même dans son époque et accomplir sa mission qui est de devenir actif dans l'amélioration de l'humanité. Et ça, il le dit très bien dans un autre poème que j'ai déjà cité, Aspirasao, Aspiration, la dernière strophe qui dit « Mon désir transformé en force, inspirant les consciences désespérées ». Ou encore dans un autre poème, « Desfile des sombras, ombre, je vois de la lumière là où il n'y a que de ténèbres. Je suis un jour dans une nuit profonde, je suis une expression de la nostalgie. » Donc voilà, ça c'est quand même très intéressant, toujours cet espoir et ces certitudes dans la poésie. Donc, le poème, un autre poème que je voulais vous citer, le poème Avemos des Voltaires, Un jour nous reviendrons, qui a été écrit en prison d'ailleurs en 1960, chante la certitude que tous les Angolais en exil pourront tourner dans un Angola libre. Je cite, « Dans nos maisons, sur nos terres, sur nos plages, sur nos champs, un jour nous reviendrons. Nous reviendrons à l'Angola libéré, Angola indépendant. » Voilà le poète qui prend part vraiment de manière non académique pour s'exprimer à sa population. Donc pour caractériser cet espoir qui parcourt toute la poésie de Netto, hein, on peut appeler ça un optimisme révolutionnaire. Notons que ce recueil de poèmes s'appelle, comme je l'ai dit au tout début, « Espérance sacrée ». Donc il y a cette question d'espoir qui est au cœur de son discours poétique. Et écoutons les deux dernières strophes du premier poème du recueil, donc « Adieu au moment du départ ». Donc les deux dernières strophes. « Demain, nous chanterons des hymnes à la liberté. Quand sera venu le moment de célébrer le jour de l'abolition de notre esclavage, nous allons chercher la lumière. Ô mère, tes enfants !» Ô toutes les mères noires dont les enfants sont partis vont chercher la vie. Donc voilà, c'est quand même très très beau et plein d'espoir. Et ça fait partie intégrante de la lutte armée, en fait, la poésie. Donc c'est pris vraiment comme un outil révolutionnaire. Et en ce sens-là, la poésie est un facteur pour bâtir une nation, pour bâtir une civilisation et permet justement de voir son monde, son continent avec les yeux du futur. Donc, le but, justement, de Senghor, si on parle un peu de la négritude senghorienne ou la poésie de senghorienne, c'est un peu différent. Elle célèbre en effet la culture africaine, hein, comme l'héritage des valeurs africaines, l'essence précoloniale, comme il dit, non encore contaminée par la culture occidentale. En tant que négritudiste, la valorisation senghorienne de la culture africaine est simplement une tentative de découvrir son identité personnelle et celle de son peuple, après des années de dénigrement par l'homme blanc. Dans « Femme noire », donc un poème de Senghor, il célèbre la beauté spirituelle et physique de la femme noire, qui est l'expression poétique du continent noir selon lui. Je cite Senghor. « Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre, la douceur de tes mains bandait mes yeux, et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre terre promise du haut d'un haut col calciné, et ta beauté me foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle. » Donc beaucoup d'ailleurs lui reprocheront son lyrisme, en fait, à chanter les qualités physiques de la femme africaine en insistant sur sa couleur de peau, qui est le principe de Sangor de la négritude. Et justement, il évoque dans « Nuit de ciné », je ne le citerai pas, mais je vous y renvoie, donc c'est également un poème de Sangor, où il développe toute la sacralité en fait, de la nuit africaine, de son mysticisme, l'animisme, tout ça, tout ce courant en fait, animiste en fait, de la culture ancestrale africaine. Et évidemment, insiste beaucoup sur ce passé idéalisé, presque parfois mystique, et, voilà, mais en n'insistant pas sur la lutte de l'émancipation, alors que ça devrait être la préoccupation première des poètes, comme le disait Netto. Donc voilà, la négritude, d'ailleurs, un autre Sénégalais disait que la négritude était une négation de la lutte des classes. Vous voyez, le débat à l'époque faisait rage. Mais voilà, revenons à Netto. Netto, lui, veut renverser le régime colonial et il s'accorde avec Frantz Fanon sur l'utilisation de la violence révolutionnaire par les opprimés dans le but de sécuriser leur émancipation, je cite. Et il a écrit plusieurs poèmes sur ce thème-là. Donc le poème « Luta », donc la lutte, donc il a écrit dans la prison d'Aljoubé à Lisbonne en 60, « Reconquista », je l'ai cité à la Reconquête, et « Depressa vite », qu'il a également écrit en prison, qui appelle les Africains à se libérer de l'oppression coloniale. Et lui, il est conscient que ce combat se fera évidemment pas dans la joie et la bonne humeur. Mais il est convaincu, toujours cet espoir, que la liberté sera atteinte, et c'est le thème central du poème « Luta », donc la lutte, ou de la dernière strophe du poème « Depressa » qu'il a écrit en prison et que je ne résiste pas à vous lire. « N'attendons pas les héros, soyons nous-mêmes les héros, en unissant et nos voix et nos bras, chacun faisant son devoir, et défendons pouce après pouce notre terre, expulsons l'ennemi et chantons en luttant toujours héroïquement, dès maintenant, la véritable indépendance de notre patrie. » Fin du poème. Donc voilà, l'idée que les Africains et les Angolais en particulier doivent se libérer d'eux-mêmes, eux-mêmes, avant d'embrasser la cause de l'humanité est très claire chez Netto. Et ça, il le dit dans plusieurs de ses poèmes. Donc l'Afrique doit s'unir ensuite à la communauté mondiale sur un pied d'égalité en tant que partenaire indépendant. Et ça, il l'évoque de manière assez prophétique, en fait, de la renaissance d'une Afrique nouvelle, dans un poème qui s'appelle « A Voz Igual », donc « Avec une voix égale », qui est un magnifique poème. Et je vous en lis un extrait. « Du chaos à la nouvelle naissance au monde, au commencement progressif de la vie, puis entrer dans le concert harmonieux de l'universel, dignement et librement, un peuple indépendant avec une voix égale, à partir de cette aurore vitale de notre espérance. » Donc voilà, c'est quand même très très beau. Il y a aussi cette notion de l'universel, mais qui n'est pas la même conception de l'universel, évidemment, qu'on retrouve dans la poésie sangorienne. Donc voilà, c'est très important aussi, dans la poésie de Netto, la question de la reconstruction nationale, de l'après-libération, hein. C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce qu'on fera après les indépendances, que, voilà, il faudra mettre le paquet. Et je vais vous citer, donc là, c'est un autre poème hein, qui est magnifique, qui s'appelle « Main sculpturale », voilà, sur ce thème de la reconstruction. Je le cite. « Au-delà de l'Afrique au retard séculaire, dans ses cœurs tristes, moi je vois les mains sculpturales d'un peuple éternisé dans ses mythes, inventé dans les terres stériles de la domination, les mains sculpturales d'un peuple qui construit sous le poids de ce qu'il fabrique pour se détruire. Moi je vois au-delà de l'Afrique l'amour vierge qui jaillit de toutes les lèvres, de lianes invincibles de la vie spontanée et les mains sculpturales unies entre elles, s'opposer à l'élan destructeur du passé. » Donc voilà, quand même, c'est assez magnifique. Donc voilà, et ça, c'est un des côtés de Netto que souvent on n'appréhende pas, c'est-à-dire ce côté poétique de la lutte politique. Donc pour conclure cette émission, donc voilà, émission un peu particulière, hein, petite parenthèse poétique. Il faut dire que les écrivains donc, africains doivent s'engager, évidemment, dans la lutte contre le néocolonialisme, c'était le cas à l'époque, et encore aujourd'hui contre la nouvelle forme de colonialisme. Et voilà, Netto en est un exemple concret. Hein. Et donc, évidemment, la civilisation de l'universel, elle passera également par cette volonté de mettre tous les hommes et toutes les femmes de cette planète donc sur un pied d'égalité. Et donc, le message de la thèse de Motezo, c'est un petit peu ce message qui fait passer. Je suis impatient, d'ailleurs, de sa sorte en français. Donc, on vous fera savoir, on vous enverra le lien. Donc, je cite Omotezo, hein, qui conclut sa thèse par ces mots. Enfin, c'est un extrait de sa thèse. « Au regard de la multitude des maux sociaux auxquels font face les nations africaines, les écrivains africains et les politiciens doivent rester à l'avant-garde de la libération des opprimés. Je pense que les écrivains africains ne devraient pas seulement écrire pour dénoncer ces maux sociaux, véritable cancer détruisant l'émergence sociale des nations africaines, mais devraient aussi montrer artistiquement ce qui est positif, ce qui est faisable et utile pour résoudre ces maux. En d'autres termes, les écrivains africains contemporains devraient s'immerger eux-mêmes dans les luttes pour améliorer le système social. Ce n'est qu'alors que la littérature, la poésie africaine continuera à jouer son rôle à la fois de culturel et également politique. Donc voilà, je pense que c'est aussi ça, voir le monde avec les yeux du futur. Un pays sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures. Tout le monde connaît ce très célèbre proverbe. Et ça fait aussi partie de la poésie. Donc on pourrait même là lancer un appel à tous les poètes africains de chanter justement, comme le faisait Netto, chanter la libération, la fin de l'oppression sous toutes ses formes, que continue à subir malheureusement encore aujourd'hui le continent africain. Donc voilà, c'était votre émission « Voir l'Afrique avec les yeux du futur ». Je terminerai par une citation d'un patriote irlandais qui s'appelle Daniel O'Connell et qui disait « Laissez-moi écrire les chants d'une nation et peu importe qui écrit ses lois ».